Jésus-Christ, mon salut. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu.
Chers amis, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, même si parfois c'est un peu obscur pour nous. Et j'ajouterai, Dieu sait ce qu'il fait et il a même quelques coups d'avance. On peut retenir ça comme une définition un peu naïve, mais je crois que c'est juste de la providence. Et finalement, c'est ce dont on nous parle, au moins pour une part, les textes d'aujourd'hui. Là, on a David qui fait des plans sur la comète, et puis le Seigneur, à travers la voix du prophète, lui rappelle qu'en fait Dieu était là avant et que c'est Dieu qui a l'initiative, et que Dieu n'a pas attendu que David se mette à avoir des idées pour être présent dans sa vie. Et puis il y a cet événement splendide de l'Annonciation, où toute la question du salut tombe sur Marie qui s'attendait sans doute pas à recevoir la visite de l'ange ce jour-là. Alors, je propose de méditer un peu ensemble sur cette notion de providence en reprenant le fil de l'Annonciation. La première réaction de Marie, manifestement, c'est une manifestation de crainte ou de peur. Puisque l'Évangile dit, elle fut toute bouleversée, l'ange dit, sois sans crainte. Donc elle a eu une première réaction, on peut comprendre d'ailleurs, un ange apparaît devant elle. Et je pense que nous tous, ici, à divers niveaux, ça nous parle parce qu'on a un certain nombre de peurs ou de craintes dans notre vie, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour la société, pour tout un tas de sujets. Et en face de ça, il y a cette vérité. Dieu sait ce qu'il fait. C'est un acte de foi qui n'est pas évident, d'ailleurs. C'est un acte de foi à poser. Nous sommes dans la main de Dieu. Dieu tient le monde dans ses mains, Mais chacun de nous, on est dans la main de Dieu. Même si parfois on ne comprend pas trop ce que Dieu fait avec ses mains, mais comme c'est Dieu qui agit, a priori quand même, il doit y avoir une logique derrière. C'est ce que dit saint Paul, il parle du mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et même si le mystère, il est révélé, il en reste pas moins mystérieux. On n'est pas capable forcément toujours de tout, de faire entrer le mystère de Dieu dans une intelligence humaine. Bon, je dis Dieu, c'est ce qu'il fait, c'est parfois obscur. On a le droit, Dieu merci, de chercher à comprendre. Puisque Marie, aujourd'hui, l'ange, lui fait une première annonce, elle pose une question. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Je propose de mettre en parallèle la question de Marie avec l'annonciation à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il est dans le temple. L'ange Gabriel, le même, lui apparaît, annonce la naissance du cousin de Jésus, et Zacharie répond, comment cela va-t-il se faire, ma femme et moi nous sommes âgés. Et la réaction de Gabriel, autant elle est pleine de bienveillance pour Marie, autant elle est presque teintée de colère pour Zacharie qui va se retrouver muet. Bon, on est un peu surpris, enfin vous peut-être pas, mais moi oui, c'est presque la même question. Sauf que je crois la question de Marie, c'est une question pour mieux adhérer à la volonté de Dieu. L'ange énonce quelque chose, elle désire adhérer, mais elle ne comprend pas assez, alors elle demande pour adhérer davantage. Je crois que la question de Zacharie, c'est presque... C'est parfois, on pose une question à quelqu'un, on pose la question sur là où ça coince. On pose une question qui nous permet de nous dégager un petit peu. Surtout que la question de Zacharie, c'est une question qui mettrait un peu Dieu à l'écart. Dans tous les cas, l'un comme l'autre, il ne pose pas la question comme nous on le fait. Très souvent, la grande question qui nous habite, très souvent quand quelqu'un vient voir un prêtre, elle sort à un moment ou à un autre, notre mot à nous c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ceci, Dieu a permis cela? Pourquoi? Pourquoi? Et en fait, je crois que ce n'est pas la bonne question. Parce que pourquoi, on n'aura pas la réponse habituellement. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu l'a voulu. C'est un peu raide de vous le dire comme ça, mais en tout cas, je vous partage ce que je crois. La bonne question, c'est comment? C'est-à-dire, par rapport à cette volonté de Dieu qui se révèle à moi, à travers des choses très concrètes, comment je le vis? Qu'est-ce que je vais en faire? Cette question un peu de discernement dans notre vie. Comment je me positionne par rapport à ce qui semble être la volonté de Dieu, puisque ça arrive dans ma vie et que Dieu n'a pas oublié. Et puis, à la fin, il va y avoir un engagement personnel. C'est la réponse finale de Marie. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Elle se donne complètement, alors même qu'elle n'a sans doute pas complètement compris. Je ne suis pas dans la tête de la Sainte Vierge, alors je ne peux pas dire ce qui s'est passé à ce moment-là, mais est-ce qu'elle avait saisi vraiment complètement ce qui se passait? Est-ce qu'elle pouvait s'imaginer tout ce qui l'attendait dans les années à venir? Sans doute que non, mais Dieu lui présente quelque chose et elle dit oui. C'est-à-dire, elle incarne les choses. On s'approche doucement du mystère de Noël. Noël, c'est le mystère d'un Dieu qui s'est fait homme. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie intellectuelle. C'est des choses qui vont s'incarner dans notre manière d'être et d'agir. Et je vous propose de reprendre ces trois étapes nous aider à les retenir en prenant la situation actuelle. On nous répète tous les jours, d'ailleurs c'est pas complètement faux quand même, mais c'est un peu la crise. Ce qui engendre en nous sans doute un certain nombre de peurs, ou d'angoisses, ou d'inquiétudes, ou de colère, un mélange de sentiments assez divers, et d'arriver à poser cette vague de foi, Dieu n'a pas oublié le monde depuis 8 mois. Dieu n'est pas parti en voyage depuis 8 mois et du coup les choses se dégraderaient. Dieu porte quand même le regard là-dessus. Même si peut-être, sans doute, on a du mal à comprendre. La deuxième étape, on est souvent à rester coincé sur la question mais pourquoi, ou une question qui n'est que intellectuelle. Et la question, je crois, que Dieu nous pose, c'est dans cette situation, comment est-ce que je vis ma vie chrétienne? Comment je vis de la foi, de l'espérance et de la charité? Comment je suis le Christ dans cette galère, il faut bien le dire, actuelle? C'est là que Dieu nous attend, tous. Et puis, enfin, on prend des résolutions une fois qu'on a discerné, on se dit, bien voilà, je pense que c'est ça la manière dont je dois habiter cette situation. Essayons. Je vous donne une illustration incarnée, du coup. On a tous ici déjà perdu un membre de nos familles, un proche, un ami. Et je crois que cette expérience nous aide à mesurer à quel point le roi un cercueil, ce qui reste, ce n'est pas les idées. Ce n'est pas nos grandes théories, même si on a le droit de réfléchir, on a une tête pour ça. Ce qui reste à la fin d'une vie, c'est l'amour qui a été partagé, concrètement. Un amour qui s'est incarné, qui s'est donné. Et je trouve que de le reprendre comme ça, ça nous aide à nous dire, eh bien finalement, ma vie est belle si j'y vais. Je termine en citant notre cher pape François, qui reprend la parabole du bon samaritain. Et il dit finalement, notre vie, elle est assez simple, alors je simplifie peut-être un peu trop le pape. Notre vie, elle est assez simple, elle se résume à ce qu'on fait qu'on passe au bord du chemin et que régulièrement, il y a une occasion de charité concrète qui est mise devant nous. Pourquoi la personne est là, ce n'est pas la question, elle est là. Et soit on détourne le regard et on passe à côté. Soit on s'arrête et on essaye d'aider la personne. Alors que Dieu nous donne la grâce d'avoir une foi immense, son amour pour nous. Que son regard ne nous quitte pas, peut-être nous, on l'oublie, lui, jamais. Qu'il nous aide fort de ce regard d'amour de Dieu sur nous à avoir une vie chrétienne qui soit, incarnée à l'image du mystère de Noël qu'on va bientôt célébrer.